Et c'est parti pour cette dernière émission de l'année 2019. Nous allons dans un instant passer en revue les programmes télévisés de cette soirée de Saint-Sylvestre avec Isabelle Morini-Bosque. Elle, c'est pas compliqué, elle s'est tout tapée. Hein. Isabelle, que l'on retrouvera tout à l'heure pour faire le bilan d'une année passée devant le petit écran avec la fameuse rétro-télé 2019 que le monde entier nous envie. Auparavant, Charlotte Latour aura fait la même chose avec les grands événements des 12 derniers mois côté musique classique.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bonjour Isabelle.
Bonjour tout le monde.
Cette fois-ci, on y est presque en 2020 avec, comme chaque année, bien les vœux présidentiels.
Suivi l'an dernier par 11 millions de Français. Mm-hmm. On verra ce que ça donne ce soir. L'autre tradition qu'on peut également suivre, c'est le réveillon télé. Oui. Toujours enregistré plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, avant le jour J. C'est une émission à mission, celle d'aider les personnes seules à passer le mieux possible le cap de la nouvelle année. Vous voulez qu'on fasse une étude comparative des trois grands réveillons ?
Avec grand plaisir.
Eh bien, écoutez, vous êtes bien urbain. TF1 est parti du principe que les 3 500 000 personnes de moyenne qui regardent Demain nous appartient à les 12 coups de midi seraient sûrement contentes de voir les coulisses des programmes de la Une. Bêtisier, temps fort, fou rire, chute, séquence supprimée. Ça, on va effectivement pas couper aux scènes coupées. Sont donc logiquement invités comédiens, animateurs et journalistes de la Une, avec, bon, un petit air de déjà-vu, si on accepte le fait que ça se termine à 23h30 pour passer le relais musical à Nikos Aliagas. Ah si, il y a tout de même un plus. Le bref passage de Patrick Sébastien de la 2 à la Une. Ah oui. On le verra donc ce soir sur TF1. C'est évidemment un pied de nez que Patrick Sébastien fait à un service public qui l'a éconduit.
Alors, comme c'était lui le préposé au 31, oui, que fait France 2 du coup ce soir ?
Eh bien, elle se met sur son 31 avec Faustine Bollard, Sophie Davant et Daphné Burki, bon, ma foi, pour un grand barnum de 3h25 au sein du dôme du Cirque de Paname. Beaucoup d'invités, Dadjou, Clérane Luciani, Christophe Maé, Julien Clerc, Sylvie Vartan, Vitas, Slimane, Soprano, Claudio Capeo, etc. Mais aussi Jean-Baptiste Guégan, mon chouchou, qui chante pendant que, allez savoir pourquoi, pendant qu'une trapéziste évolue au-dessus de lui dans un cercle.
On souffle sur tes lèvres. Est-ce que viendra le soir de ce dernier sommeil?
Moi, je l'avoue, j'adore cet artiste révélé au grand public dans la France, un incroyable talent sur M6. M6 qui propose, alors curieusement, le réveillon le plus cosy. Ah. Cosy, ça dégueule pas de décibels, de lumière, de public, c'est doux, c'est à l'échelle humaine. Ça me disait strictement rien sur le papier, or à voir, c'est une très bonne surprise. L'animatrice Julia Vignali, qui est chaleureuse, réunie dans un loft, la bande à Fifi, Philippe Lachaud, pour accueillir Dave, plus Jennifer, plus Elodie Frégé, plus Jarry, plus Amel Bent. Chaque invité choisit une année de la très riche décennie 80. Pourquoi 80, pourquoi pas, avec une chanson phare. Et pour Amel Bent, c'est 1988, elle a 3 ans, ses parents divorcent, c'est le choc.
Petite, je voyais le clip de N'importe quoi, de Florent Pagny passer à la télé. Et je sais pas pourquoi, mais il me faisait penser à mon père que je voyais pas justement à ce moment-là.
Et là, tu crois que je vais rester sans rien dire.
C'est incroyable.
27 ans.
Ils sont tous bouleversés, notamment un Philippe Lachaud parfaitement immobile. Il semble comme pétrifié. Il n'y a pas un muscle qui bouge. Et pourtant, il est en larmes, au point qu'après, il doit expliquer.
Ouais, c'est un morceau assez particulier pour moi aussi.
C'est vrai?
Parce que? Non, j'ai perdu un frère jeune. Et c'était ce... Merci beaucoup. Mais tu pouvais pas savoir.
Bah oui, je savais pas.
Non, mais tu l'as interprété brillamment et merci. Merci beaucoup.
Voilà, il a donc perdu un frère de la drogue. C'est un vrai réveillon de potes. Philippe Lachaud fait Michael Jackson, mais admirablement bien pour Jennifer. Jarry surprend par ses dons de danseur. Il a été danseur professionnel.
Ah bon ?
Tous évoquent le club Dorothée dès 87. Tous s'extasient devant le premier Minitel, 1980, le premier appareil photo jetable ou la première console de jeu en 82. Sans oublier les créations télé qu'on revoit sur quelques séquences, Champs-Élysées, le Bébête Show, Sacrée Soirée en 87 ou le Divan. Et on rit par exemple beaucoup devant ce très court extrait d'une Jeanne Moreau de très méchante humeur sur le divan d'Henri Chapier.
Mais pour vous-même, quelle est la définition du bonheur et selon vous, est-il obligatoire?
Mais j'en ai rien à foutre du bonheur.
Ben oui, mais...
Voilà, il est tellement perturbé qu'à voir, c'est extrêmement drôle. Et puis on aime aussi cette reprise de Lio par Elodie Frégé.
Et toi, dis-moi
que tu m'aimes, même si c'est un mensonge et qu'on n'a pas une chance. La vie est si triste, dis-moi que tu m'aimes, tous les jours sont les mêmes.
Donc réveillons très doux.
Élodie Frégé Chantelieu. Ben oui, vous nous avez donné envie de regarder ça et d'écouter avec plaisir. Merci beaucoup Isabelle. On va se retrouver pour notre rétro 2019 après un bon passage de musique classique proposé par Charlotte Latour. Là aussi, les meilleurs moments de 2019.
2030 sur RTL
avec Bénédicte Tassard.
Une nouvelle décennie commence, 2020-2030. Alors si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, ce 1er janvier dans RTL Soir, entre 19 et 20 heures, nous imaginerons ensemble notre monde en 2030 avec nos invités climatologues, géopoliticiens, sociologues et Bertrand Piccard aussi, le pilote de Solar Impulse, nous décrira l'avion du futur. Et vous, comment voyez-vous notre planète dans 10 ans? Ce 1er janvier, nous dévoileront un sondage Harris Interactive sur votre vision en route vers 2030. Rendez-vous demain entre 19 et 20 heures pour débuter l'année les yeux tournés vers l'avenir.
Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter 1 plus 1 offert.
Donc qui achète quoi pour le réveillon?
Je prends le champagne.
On est nombreux quand même.
Écoute, ça me fait plaisir.
Jusqu'au 31 décembre, pour l'achat d'un carton de 6 bouteilles de champagne de Casanova Brut, un carton de 6 bouteilles de champagne Martel Brut est offert et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Bouteille de 75 centilitres, modalité magasin participant sur intermarché.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Quand j'ai rencontré Corinne sur Disons Demain, elle m'a pas demandé depuis combien de temps j'étais célibataire, mais si je voulais faire un tour en moto, et elle a bien fait.
Vous aussi, essayez Disons Demain, le site de rencontre pour célibataires de plus de 50 ans. Déjà 1 million d'inscrits.
On fait quoi le 31?
Je sais pas. Discount, je dois filer. En ce moment, chez Netto, les huîtres fines de Claire Marraine-Oléron sont à 3,99€ le kilo.
Ça se fête.
Netto, le discounter qui fait la différence.
Ou fine bretonne ou fine normand numéro 4, bourriche de 1,5 kg, 2 douzaines minimum, soit 5,99€, élevé en France. Magasin participant sur netto.fr.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
On continue de jeter avec grand plaisir un coup d'œil dans le rétroviseur, dans le monde de la musique classique maintenant. 2019 a été marqué par de très beaux événements. Bonjour Charlotte Latour.
Bonjour.
Vous revenez tout d'abord sur une visite pleine d'émotions que vous nous aviez fait vivre dans une cathédrale qu'on a bien cru voir disparaître.
2019 a commencé pour moi au cœur de Paris, à Notre-Dame, de nuit, pour l'enregistrement d'un album d'orgue, un moment de pure magie. La cathédrale était alors vidée de ses touristes. J'ai été guidée dans ce lieu unique par l'un des quatre organistes de Notre-Dame, Olivier Latry, présent en ce jour de début janvier 2019 pour enregistrer son album Bach, sorti 2 mois plus tard. Il m'a raconté l'histoire de l'orgue, construit en 1402, 50 ans après la fin de la construction de la cathédrale, un instrument de la taille d'une maison de 4 étages, épargné lors de l'incendie du mois d'avril.
Il y a 4 étages qui se superposent, plein de tuyaux. Il y a environ 8000 tuyaux dans l'orgue pour un volume relativement important, puisqu'en fait, l'orgue fait pas loin de 16 mètres de haut sur 13 ou 14 mètres de large. Le tout sur 4 mètres de profondeur.
Il y a encore des pièces d'époque ?
Il y a encore quelques éléments, effectivement. On peut trouver des pièces de bois, des tuyaux très anciens qui sont marqués un petit peu comme une vieille personne, vous savez, avec les taches de soleil, etc. Voilà, c'est un petit peu ça. On voit sur la peau des taches. On dit, oh là là, ça doit pas être très jeune. Effectivement, des tuyaux qui ont, selon les cas, 500 ans ou 600 ans.
L'album d'Olivier Latry est ainsi le tout dernier à avoir été enregistré dans Notre-Dame avant le drame. Il s'appelle Back to the Future, Back B-A-C-H, comme Jean-Sébastien, le plus grand organiste de tous les temps. Album La Dolce Volta, également sorti d'ailleurs dans une très belle édition vinyle à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Et vous nous avez rappelé tout à l'heure que cet orgue avait été épargné par l'incendie.
Absolument, hein, absolument. De... Il y a du nettoyage. Hein,
Il est toujours là. Je n'en doute pas. 2019 a aussi connu son lot d'anniversaires, notamment les 150 ans du plus grand compositeur français, romantique, Hector Berlioz.
Né en 1803 à la Côte-Saint-André dans le Dauphiné, son père médecin avait deux fermes dont Berlioz a hérité, qui lui ont d'ailleurs apporté plus que sa musique. Il grandit donc à la campagne, apprend la flûte et la guitare quand les autres grands compositeurs commencent souvent par le piano. Poussé par son père, il part à Paris pour apprendre la médecine, mais sèche les cours et va en douce au concert et à l'opéra. Boulimique de musique, Berlioz est un autodidacte de génie et parmi tous les hommages qui lui ont été rendus au disque cette année, un superbe coffret 27 CD de l'intégrale de son œuvre chez Warner Classics. On y retrouve par exemple le grand œuvre de Berlioz, son opéra Les Troyens par le chœur et l'orchestre de Strasbourg dirigé par John Nelson. Pas également à aller vous plonger dans la lecture d'un petit livre passionnant, très facile à lire, signé Bruno Messina, sur la vie et l'œuvre de Berlioz chez Actes Sud.
Également fêté cette année les 350 ans de l'Opéra de Paris et les 30 ans de l'Opéra Bastille.
Eh oui, l'Opéra de Paris, une création de Louis XIV. Aujourd'hui, l'Opéra de Paris est installé à la fois dans l'Opéra Garnier et dans l'Opéra Bastille. À Garnier, on assiste au ballet et à certaines productions lyriques qui se contentent d'effectifs réduits. À Bastille, ont lieu les opéras de plus grande envergure puisque la salle peut accueillir quantité de chanteurs, de figurants, de musiciens d'orchestre ainsi que d'imposants décors. Ces deux sites assurent 490 représentations par an. Parmi celles de 2019, Don Giovanni de Mozart, mise en scène par le Belge Ivo Van Hove et dirigée par Philippe Jordan. Enregistre un taux de remplissage record de 93% tout de même. Quant à son public, il rajeunit. Ouais. 42 ans en moyenne pour la danse, 46 ans pour le lyrique.
Ces chiffres sont très intéressants à écouter.
Que des têtes blanches,
mais oui,
à
absolument. Autre fait marquant de l'année écoulée, le retour au disque d'un pianiste de légende, 20 ans après son dernier enregistrement, le croate Ivo Pogorelic.
Véritable star dans les années 80-90, encensé par la critique de l'époque, il passait sa vie à voyager pour ses concerts, puis à quitter la scène et les studios d'enregistrement au décès du grand amour de sa vie, sa femme est professeure, décédée d'un cancer en 96. Aujourd'hui, la moindre de ses apparitions est donc un événement. Alors imaginez, un nouvel album, c'est un coup de tonnerre là en septembre dernier. Aujourd'hui, il a 60 ans, toujours aussi charismatique, un homme au corps de géant, aux allures de moine bouddhiste, qui parle extrêmement posément, mais de façon très déterminée. C'est aussi comme ça qu'il joue. Ce premier album depuis 20 ans est consacré à des œuvres rarement jouées de Rachmaninoff et Beethoven. Il est paru chez Sony, extrait de la brillante sonate opus 78 en fa majeur du compositeur allemand.
Terminons sur la voix lyrique féminine qui fait toujours l'unanimité, celle, et cela même après 34 ans de carrière, celle de la mezzo-soprano Cecilia Bartoli. Elle a sorti à l'automne un album où elle joue sur l'ambiguïté homme-femme.
Album consacré au plus grand castra, Farinelli.
Je pense qu'il avait un talent supérieur aux autres. D'abord, la vocalité, c'est une voix très élastique, celle-là de Farinelli. Mais je pense que la virtuosité, bien sûr, était incroyable, mais aussi... Comme chanteur, il était très touchante dans les airs pathétiques aussi. Alors, il avait tout.
Cécilie. Célia Bartoli, les cheveux lâchés avec une fausse barbe sur la pochette. La voilà qui s'amuse du mélange des genres avec un clin d'œil à une époque où le pape interdisait aux femmes de se produire sur scène. On donnait donc les rôles de femmes à des hommes, transformés en castrats pour atteindre de leur voix les plus hauts sommets. Le sommet, elle y est installée depuis un bon moment, mais continue de s'amuser sur scène comme au disque et de s'émerveiller comme au premier jour devant cette musique baroque qui lui plaît tant. Farinelli, nouvel album de Célia Bartoli, c'était notre classique d'or de novembre. Il est paru chez Decca. Et puis saluons la mémoire d'une autre immense voix lyrique, celle de la soprano américaine Jessie Norman, qui nous a quittés en septembre dernier.
Merci beaucoup Charlotte Tatour pour cette rétrospective qui se termine avec la voix de Jessie Norman. On va donc reparler télévision maintenant avec cette question très simple, Isabelle Morini-Bosque. Que faut-il retenir de cette année télé ?
Je vous retourne la question. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, Yves, hormis Game of Thrones sur OCS ou La Casa de Papel sur Netflix ? Netflix, parfois considéré comme la cinquième chaîne télé avec 3 500 000 téléspectateurs par jour.
Moi, j'ai regardé énormément de séries, alors je suis un homme à séries.
Et puis le football aussi.
Évidemment.
Plus les Enfoirés, 9 400 000 fidèles. Oui, les ravissantes polymusclées de l'équipe de France féminine de foot ont ainsi rapporté à TF1 5 des 10 meilleures audiences de l'année. 10 700 000 curieux les ont ainsi vues face aux Américaines le 28 juin. Le foot, c'est une mine, c'est une manne pour M6 également, qui obtient ses 3 meilleures audiences 2019 grâce au match de qualification des Bleus pour l'Euro 2020. Bon, ça, c'est fait. Alors maintenant, oui, on peut en venir au succès flagrant de la fiction française, qui s'est imposée dans le classement des 100 meilleurs scores, toutes chaînes confondues, à commencer évidemment par elle.
Alors Didier, c'est quoi l'embrouille ?
Eh bien l'embrouille, c'est... Tu vois ? L'orifice d'entrée de la balle. Il est juste derrière l'oreille, pas sur la tempe.
Ah ouais, méchant trou de balle.
Eh oui, Capitaine Marlowe, aussi raffiné qu'une sulfateuse, bien avec sûr. Ses oreilles de Goofy. Autre énorme succès, le bazar de la charité, TF1. Cet incendie de 1897 a enflammé 8 500 000 téléspectateurs, un peu moins que Marlowe, tout comme Balthazar le beau légiste, avec Thomas Sisley, proscrit par la critique, prescrit par le public. Alors certes, toutes les séries ambitieuses ne rencontrent pas le public. Zone blanche, prise au piège, le grand bazar, c'est dommage. D'autres sont arrêtés contre toute logique par France Télévisions. Lebovitch contre Lebovitch, on va s'aimer, pourtant... successful, comme on dit. Mais 2019 aura renforcé les valeurs sûres. Alex Hugo, Petit Meurtre, Engrenage, Bureau des Légendes, Baron Noir. Et aura vu le triomphe de feuilletons au thème extrêmement risqué, comme Infidèle avec Claire Kay, mon femme très jalouse.
Ça va pas, ma chérie ?
Je trouvais un cheveu sur l'écharpe de Mathéo.
Et t'as peur qu'il vienne chauve ?
Un cheveu long.
Blond. Oh putain, merde.
Ça me fait rire.
C'est drôle, moi
plus
aussi.
Plus casse-gueule encore, les bracelets rouges ou le quotidien d'adolescents très malades, donc hospitalisés.
Je me suis fait des potes.
C'est vrai ?
Oui.
Ils ont la mucoviscidose aussi ?
Même pas. Non, non, il y a des cancéreux, des anorexiques, il y en a un qui a un problème d'anévrisme.
C'est le tour du monde de la maladie, quoi.
Oh ouais, c'est ça.
Voilà, c'était une jeune femme hospitalisée et son frère. Sur Arte, une jeune fille, pardon. Sur Arte, c'est une octogénaire SDF, Huguette, qui vaut à Arte son record d'audience, merci Lynn Renaud, qui l'incarnait, et qui m'avait parlé de sa mort.
La mort ne me fait pas peur, c'est la souffrance. Je ne veux pas souffrir. La douleur, la douleur, la douleur. Je ne veux pas. Non, non. L'insupportable de longue durée. Non. Donc, tout est prêt. Si je souffre, je pars.
Et on allait oublier Matt Pokora en Marin, dont la mère Muriel Robin souffre d'Alzheimer. Les deux font la paire.
C'est quelque chose qui me tenait à cœur, étant donné que j'ai perdu mon grand-père à cause de cette maladie. Donc voilà, c'est un joli téléfilm sur la maladie d'Alzheimer, avec des valeurs aussi sur la famille.
On ne devient pas acteur, on l'est pas. Et Matt l'est, il l'est naturellement. J'ai découvert vraiment une épaisseur chez ce garçon, qui apporte beaucoup au film. Il a quelque chose de très terrien. Il est vraiment très doué, quoi. Je lui souhaite une carrière à la Breuel. Sans les incidents qui sont autour, voilà. C'est difficile.
À propos de Muriel Robin, notez que ces sketchs vont devenir une fiction sur la Une. Pierre Palmade le confirme.
Alors, je sais que Muriel travaille sur une fiction à partir de ses sketchs. Et elle m'a dit, est-ce que tu serais partant ? J'ai dit oui. S'il y a un scoop à faire, c'est pas à moi de le faire encore. Je peux pas en dire plus, je sais juste que c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette idée de faire des sketchs de Muriel une fiction. Et on m'a demandé si je voulais aider. Et j'ai dit oui, voilà.
Bon, si, c'est un petit scoop. Lui-même proposera d'ici quelques semaines son grand restaurant version M6.
Alors, on note également... Moup, on l'écoute ? Non,
non, non.
Voilà, c'est à moi. On note également que malgré la nouvelle façon de consommer la télévision, il y a encore du monde hein, sur les chaînes de 18h30 à 21h.
Et comment ? Outre les chaînes d'infos, outre vous sur Canal Yves et malgré les plateformes, Salto arrive en mars, outre donc tout ça, on constate le succès des trois grands talk shows journaliers qui mobilisent plus de 4 500 000 fidèles quotidiens, C'est à vous et TPMP depuis 10 ans. Idem pour les feuilletons Demain nous appartient, Plus belle la vie et Un si grand soleil, fédérateurs de quasiment 10 500 000 personnes. Mention spéciale tout de même à Scène de ménage, 10 ans d'âge, qui réalise ses meilleurs scores depuis 7 ans, 3 800 000 fidèles de moyenne, avec le titre de comédien favori des Français pour Gérard Hernandez, Raymond et Marion Game, Huguette. Bon anniversaire.
Dernier anniversaire, dernier anniversaire, Gaguette, dernier anniversaire.
Tu vas me la faire chaque année, ta vanne pourrie.
Oh, je reconnais bien là ton optimisme, ma poule. Allez, souffle, pendant que tu peux encore.
Voilà, un succès pouvant en cacher un autre, monté en puissance de En Famille, autre format court de la 6 qui en dit long.
En 2019, quelques personnalités s'imposent. Hein.
Oui, alors évoquons celles qu'on engage avant celles qu'on dégage. S'installe Fabie Flamand dans son atelier sur MC, 200 000 personnes de plus. Laurence Boccolini gagnant de Mask Singer. Camille Combat, l'animateur multipiste sur TF1. Pascal Pro sur C8. Évidemment, Sophie Davant et son affaire conclue. Côté info, Bernard de la Villardière bat des records d'audience avec enquête exclusive. Xavier Demoulin se rapproche des 3 millions de fidèles avec son 19,45. Et Julien Courbet fait de Capital une émission de nouveau Capital avant d'aider en janvier de jeunes entrepreneurs.
Alors, si les JT de 20h perdent près de 300 000 fidèles, il reste des valeurs sûres face aux chaînes d'info.
Oui, celui de TF1 est suivi par 5 300 000 personnes, celui de la 2, 4,5 millions. Le grand Manitou de l'info reste Jean-Pierre Pernaut à 13h, précédé par le totem de l'animation Jean-Luc Reichmann, qui a vécu une année omelette norvégienne avec ses candidats. Le froid avec Christian Quesada, arrêté pour détention de milliers d'images pédopornographiques. Le show avec le triomphe du jeune autiste Paul, quelques 692 000 euros de cadeaux en 6 mois.
Côté divertissement, y a justement de la casse.
Hein. Ça, c'est pas faux. Sortie de C8 d'un hardisson privé de rentrée pour la première fois en 29 ans. Départ de Motus d'un Thierry Beccaro qui a devancé l'appel et qu'on verra en 2020 dans Magellan. Attente façon désert des Tartares pour Patrick Sébastien qui espère une émission sur C8. Et bien sûr, éviction de Patrick Sébastien de France 2 en mai.
J'ai eu un message d'une hypocrisie parfaite de la chaîne en disant qu'ils me remerciaient chaleureusement. Chaleureusement les gens de Magic TV, chaleureusement les spectateurs, à part qu'ils leur ont dit d'aller se faire foutre chaleureusement. Voilà. C'était moi avec.
Voilà. Il réclame 5 millions d'euros à sa direction. Et on n'oublie pas la semi-retraite de Frédéric Lopez, qui présente toujours bien, mais qui ne présente plus Rendez-vous en Terre Inconnue.
Année difficile aussi pour les nouveautés. Hein.
Oui, d'où la nécessité de maintenir des formats vieillissants qui ont encore des fidèles. The Voice, The Voice Kids, Danse avec les Stars, Koh-Lanta. Mm-hmm. On sont terminés avant d'avoir commencé Le Sens de l'Effort, de Bridge, All Together et sur TF1 Aventure Robinson au plus bas vendredi dernier avec Julien Lepers.
Je suis. Je suis bien paumé.
En fait, Teddy Riner est aussi, hélas, allé au tapis avec la course des champions de la 2, Boyarland aussi. Résiste très bien le meilleur pâtissier, Top Chef, et bien sûr la France a un incroyable talent qui réalise également sa meilleure audience depuis 8 saisons. Notre chouchou, c'est Valentin Lebeg.
Je m'appelle Valentin. Comme vous pouvez l'entendre, je suis myope, donc ça va prendre un peu de temps.
Et bien sûr, l'amour est dans le pré, toujours premier ou deuxième malgré une programmation plus difficile qu'autrefois, fin août. Qui a oublié Didier Lavéronnais?
J'ai mis à raconter des conneries. Elle m'a dit, mais t'as pas les blagues avec la noix, tu vois jamais. Mais si, il dit, une fois dans le tracteur, tu as la poste, il te raconte des blagues.
Moi, cette phrase, par exemple, je n'ai pas comprise.
Non, voilà. Non plus.
Non,
54 bébés sont nés des différentes unions de l'amour dans le pré, comme moi, on peut conjuguer production et reproduction. Et puis, bien sûr, rendez-vous l'année prochaine maintenant.
C'est ce que j'allais vous dire, avec grand plaisir. Julien Courbet est avec nous dans un tout petit instant sur RTL.
RTL Matin, laissez-vous tenter.